Capi Service.
Merci de votre participation à cette émission de la vie au quotidien.
Au Capi Service, à l'Université libre des pays des Grands Lacs à Goma.
Alors, chers camarades, est-ce qu'il y a-t-il des questions dans la salle? Parce que c'est une émission interactive. Nous voulons recueillir des questions dans la salle, ceux qui veulent poser.
Venez nombreux participer à l'enregistrement de deux grandes émissions ce mercredi 2 et jeudi 3 juillet dans l'amphithéâtre de l'ILPGL de 10h à 12h, heure de Goma.
Vous allez voir.
Vous êtes étudiant, agriculteur, agent de développement, organisation des femmes, société civile, vous êtes tous cordialement conviés à ce rendez-vous. Au Capi Service à l'Université libre des pays des Grands Lacs à Goma, avec jeudi Daniel Kachama.
Et à bientôt. Pendant la saison sèche, il arrive souvent que le niveau des eaux puisse baisser sur les voies navigables, ce qui peut constituer un danger pour la navigation des baleinières et bateaux et autres embarcations. Certaines embarcations échouent sur les bancs de sable, les bateaux aussi échouent sur les bancs de sable où il peut y avoir des barges qui sont endommagées. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour naviguer en toute sécurité pendant la saison sèche où il y a des crues? Des eaux au niveau du fleuve et au niveau des rivières. Monsieur Gabriel Mokango est directeur technique à la régie des voies fluviales. Encore une fois, bonjour.
Bonjour.
Alors, pendant cette période où on constate qu'il y a baisse des eaux au niveau du fleuve et des rivières, alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour naviguer en toute sécurité?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. C'est fondamental. En cette période de basse eau ou d'étiage, il est recommandé aux navigateurs et autres usagers de voies fluviales de respecter le balisage qui est effectué par la RVF et surtout de suivre les informations liées à l'hydrologie pour leur permettre de pouvoir charger leur bateau, avoir un tirant d'eau admissible qui leur permette de voyager à toute sécurité. Et là, ce sont des précautions d'usage. Mais je veux aller un peu plus loin pour dire que nous sommes un peu mal à l'aise pour parler de travaux de balisage parce que présentement il n'y a aucun baliseur qui est en mouvement.
Pourquoi?
Et c'est lié à des facteurs qui ne dépendent pas de nous. Et vous êtes sans ignorer que nous sommes en programme avec l'Union européenne dans le cadre du 10e FED.
Oui.
Et il y a un projet d'appui à la navigabilité de voies fluviales et la course d'eau en RDC. Et dans le cadre du 10e FED, ils ont choisi deux axes principaux, le fleuve Congo et la rivière Kasaï. Ils devaient en principe nous venir en appui avec tout le matériel voulu, l'acquisition des unités flottantes pour que nous puissions couvrir les deux cours d'eau et faire un balisage optimal. Mais l'Union européenne a des procédures qu'ils appellent Prague qui sont longues et fastidieuses. Et ce qui fait que présentement, nous sommes pendant la période d'étiage, aucun préparatif ne fait. Et nous sommes en train de voir, nous avons écrit à notre tutelle pour donner la sonnette d'alarme et dire que le gouvernement congolais, qui a le rôle régalien, de permettre à la régie d'assurer le balisage, de prendre toutes les dispositions pour que le moyen financier soit mis à la disposition de la RVF, que nous puissions pallier à cette insuffisance.
Voilà. Alors, vous dites que les précautions à prendre, premièrement, il faut respecter le balisage, bien que l'Union européenne va s'en occuper. Mais déjà, il y a quand même quelques balises qui sont posées au niveau des cours d'eau, du fleuve et des rivières, des voies navigables de la RDC.
Sur la rivière Kasaï, il y a un balisage qui a été fait pendant les hautes eaux, au mois de février et mars. Et quand nous sommes allés en inspection, évidemment, c'était la crue. Mais beaucoup de marques avaient de niveau d'eau jusqu'au niveau de la gorge. Et la période.
C'était à peine visible.
Oui, oui. Favorable, c'était cette période ici de basse eau, où il y a baisse de niveau d'eau et les écueils remontent à la surface et ça constitue un danger. Et d'ailleurs, il est prévu que le baliseur soit présent obligatoirement pendant cette période. Mais le baliseur Congo qui est à Bandundouville, en attente de ravitaillement matériel de balisage, ne bouge pas. Et celui que nous avons affecté sur le fleuve Congo, le baliseur Lomela, qui est rentré parce qu'il avait une panne de moteur de propulsion depuis le mois de novembre de l'année passée, un planning a été fait pour assurer la réparation et la remotorisation, mais nous marquons le pas. Et ce projet de 10e fête qui est fait en séquence dans ce que nous appelons défi programme, le 2PD qui devait prendre en charge toutes ces réparations est arrivé à terme hier, le 24 juin. Donc nous allons connaître un temps de flottement pour qu'on puisse passer à l'EP3, donc 2P3, je voulais dire, le défi programme pour la 3e année, mais dont la signature pourrait intervenir, c'est pas moi. Parce que entre 2P1 et 2P2, nous avons mis 3 mois.
D'accord. Alors, on retient qu'il y a des problèmes au niveau du baliseur qui ne sait pas fonctionner parce qu'il n'y a pas, tous les équipements qu'il faut pour bien fonctionner pendant cette période. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la période de basses eaux? Il faut changer les balises. Pourquoi? Parce qu'il se forme des bancs de sable à gauche à droite. Alors, il faut placer des balises pour signaler.
Oui. Monsieur le journaliste, vous devez savoir que nous exploitons notre cours d'eau à l'état naturel. Donc, nous ne maîtrisons pas tout le facteur qui arrive. C'est lié à la nature. Et quand vous faites un balisage pendant les hautes eaux, ce balisage a une durée de validité. À cette période-ci, parce que pendant les hautes eaux, le bateau peut naviguer n'importe où, parce que les pointes des écueils sont sous eau, le bateau qui a un tirant d'eau peut passer dessus sans pouvoir cogner l'obstacle. Mais pendant les basses eaux, l'obstacle émerge à la surface.
Quels sont les obstacles qu'on retrouve souvent?
Il y a des épaves, il y a des bancs de sable, il y a le banc rocheux. Alors, il faut qu'il y ait des marques de balisage. Certainement, le balisage qui a été fait pendant les hautes eaux ne peut plus être valable pendant les basses eaux. Donc il faut une rotation pour remédier à la situation. Parce que la route, surtout quand vous prenez la rivière Kassai, où nous avons une force hydrodynamique très importante, ça change de route. Vous êtes passé il y a 2 jours sur la rive droite, mais une semaine après, vous êtes sur la rive gauche. Donc il y a un bas de sable, un îlot qui s'est formé à cet endroit. Donc le baliseur doit suivre tous ces mouvements, faire des reconnaissances, retrouver la route propice pour guider le navigateur.
Et comme le baliseur ne fonctionne pas, alors les armateurs seront en difficulté. Ou sont déjà en difficulté pendant cette période.
Bon, mais nous ne sommes pas trop fatalistes. Nous pensons que nous sommes qu'au début de la période de basses eaux et que si un effort est fait, nous pourrons intervenir même vers le mois d'août. Le temps pour nous d'avoir le consommable, de fabriquer les aides à la navigation et de pouvoir le poser. Par exemple, le cas du baliseur Congo, il a le carburant. Il ne reste qu'à lui amener le matériel et il pourra être en mouvement, baliser complètement la rivière Kassai jusque de Kwamouth jusqu'à Lebo.
D'accord. Serge Makaka nous appelle de Kinshasa. Doudou Kadima est en Mbujimayi.
C'est parce que Radio Capéine et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Quelles précautions prendre pour naviguer en toute sécurité pendant cette période des basses eaux? Serge Makaka, bonjour. Serge, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, Serge, s'il vous plaît, veillez, si vous êtes à côté de votre radio, veillez à l'éteindre et vous allez suivre à partir du téléphone pour éviter les retours, les faire retour à l'antenne. C'est fait? Voilà, Serge, apparemment, il n'est plus là. Doudou, vous êtes en Mbujimayi, bonjour. Doudou, bonjour.
Bonjour.
Voilà, les auditeurs ne sont peut-être plus là, ils vont certainement nous rappeler pour poser leurs questions. Serge, vous êtes en ligne?
Oui, merci beaucoup, bonjour.
Bonjour Serge, on vous écoute.
Merci beaucoup. J'ai bel et bien suivi l'invité. Il venait de parler d'abord pour faire face à cette situation. Il faut que nous puissions d'abord nous atteler au balisage. C'est ça, non?
Oui.
Justement. Alors, il venait de parler encore que non. Ce problème-là, c'est l'ONU qui veut maintenant en initier.
L'Union européenne.
Je veux maintenant savoir, est-ce que notre gouvernement ne sera pas à mesure d'initier d'avoir cette initiative-là, étant que le gouvernement lui-même et les responsables du pays, que ces problèmes soient d'abord initiés par l'ONU?
Non, c'est l'Union européenne qui a un programme de réhabilitation des balises. Hein. D'accord, merci. Doudou, vous êtes en Boujimaï, bonjour.
Bonjour, je suis Daniel Kachama, bonjour aussi à l'invité.
On vous écoute, Doudou.
Ok, en fait, ce qui favorise les accidents sur les cours d'eau, moi, je peux dire que c'est peut-être le gouvernement qui est à la base. Parce que, est-ce qu'il y a une contrôle technique, je dis Daniel Kachama, avant qu'un bateau puisse décoller, est-ce qu'il y a une contrôle technique? Parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent là-bas, il n'y a pas même une contrôle, les gens font ce qu'ils veulent là-bas. Maintenant, qu'est-ce que l'invité peut nous donner comme piste de solution?
Merci, monsieur Gabriel Mokango.
Ok, merci. Je remercie nos deux auditeurs. Je commence par monsieur Serge qui est à Kinshasa.
Oui.
Effectivement, ce qui nous soulève, c'est notre préoccupation. Comme je dis, c'est la mission régalienne du gouvernement congolais. Parce que vous devez savoir que la RVF rend service, ne fait pas de bénéfices, et que c'est l'État qui doit assurer. Aucun opérateur économique ne peut prendre ça à sa charge parce que il va engloutir son argent pour rien. Mais est-il que le gouvernement qui a signé des conventions de financement avec l'Union européenne et la Banque mondiale, qui sont des partenaires, et leur a fait confiance? Et, mais il se fait que rien ne marche de ce côté-là. C'est comme ça, nous disons que le gouvernement doit prendre les choses en main, donner la subvention qu'il faut pour que même si nos partenaires nous viennent en aide ou en appui, mais nous-mêmes nous soyons capables à même de faire quelque chose au lieu d'attendre toujours quelque chose de leur part. Parce que si le gouvernement avait mis l'argent à la disposition de la RVF, compte tenu des hésitations que nous connaissons du côté de 10e fête, nous aurions pu déjà commencer à préparer quelque chose et pouvoir intervenir début juillet ou à mi-juillet. Mais nous attendons. Pour M. Doudou,
il demande, est-ce que vous organisez les contrôles techniques des bateaux, et surtout en cette période des saisons sèches où il y a beaucoup de problèmes, est-ce qu'il y a des contrôles techniques au niveau des unités?
Bon, là je veux éclairer quand même son lanterne pour dire que la RVF s'occupe de l'aménagement du voie. Le contrôle technique des unités flottantes revient à la direction de la marine de voies navigables. Mais nous pensons qu'un bateau, avant de quitter son port d'attache, il y a des commissaires fluviaux qui sont implantés le long des cours d'eau. Ils veillent, parce que tout ça est prescrit dans le code fluvial. Et nous savons qu'il y a quand même un laxisme qui est observé de ce côté-là, mais c'est question de faire appliquer la réglementation dans toute sa rigueur. Nous pensons que nous allons, si pas éradiquer, mais réduire sensiblement tous ces cas que nous connaissons.
Alors, pour naviguer en toute sécurité pendant cette période de basse eau, vous avez dit la première chose, il faut respecter le balisage. Y a-t-il d'autres éléments?
Oui. En deuxième lieu, je parlais des informations hydrologiques, parce que vous devez savoir que quand nous naviguons sur le fleuve Congo, nous n'avons pas les mêmes profondeurs de Kinshasa jusqu'à Kisangani. Ça varie suivant les endroits. Et le goulot d'étranglement sur le fleuve, c'est la passe rocheuse de Gougi qui se trouve à Lissala. C'est comme ça que tous les bateaux qui doivent charger se refèrent à l'échelle de tillage qui est à Lissala, qui permet de dire quel est le mouillage, donc la profondeur, qui reste pour que le bateau ne puisse pas frôler ou toucher les obstacles. Sur la rivière Kasaï,
Goujila, qu'est-ce qu'il y a là-bas, des bancs rochers?
Le banc rocher, en principe, on devait déroquer, enlever ces roches, mais il faut des études hydrauliques dans de grands laboratoires. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau, mais comme les positions de ces roches sont connues, nous les isolons par des marques de balisage et nous laissons une largeur suffisante au bateau pour pouvoir manœuvrer, entrer et franchir cette passe.
Ça, c'est le plus grand obstacle sur la voie navigable.
Sur le fleuve, oui.
Vers l'Issala.
Vers l'Issala. Bon, il y a aussi la passe rocheuse de Yaouli, mais là, avant d'atteindre Kisangani.
Oui.
Ah. Mais ce qui nous sert de référence, c'est à l'Issala. Sur la rivière Kasaï, c'est Adima. Adima Lumbu, qui est la passe rocheuse de Kandolo.
Mmh.
C'est là où nous avons une échelle de brassillage qui veut que quand l'échelle de Dima indique zéro, un niveau référentiel que nous avons pris, nous n'avons plus que 1,30 m de profondeur.
Oui.
Donc si nous disons que nous n'avons que plus 1,30 m, le bateau ne peut pas charger au-delà d'un mètre, parce qu'il doit avoir une franchise, parce que quand le bateau est en mouvement, à pleine navigation,
oui,
il a tendance de s'enfoncer.
Mmh.
Donc il faut une marge de sécurité pour ne pas...
La franchise. Hein.
La franchise.
Mmh.
Et présentement, il y a 3 jours, le niveau d'eau sur la passe rocheuse de Kandolo est resté stable, c'est 0,80 m. Donc cela dit que nous n'avons plus que 2,10 m.
Voilà. Je reviens à vous dans quelques instants, le temps d'accueillir Lucien qui nous appelle de Kalemie au Katanga. Bonjour Lucien.
Bonjour monsieur le journaliste, bonjour.
On vous écoute Lucien.
Bon, pour ce qui concerne ce sujet, c'est un peu très intéressant. Je remercie d'abord l'intervention de l'invité et je le salue en passant. Merci beaucoup.
Merci.
Bon, à ce qui concerne la régie fluviale ou la régie des voies fluviales, il faut qu'il y ait d'abord une bonne organisation, monsieur le journaliste. Si on se rappelle très bien, il n'y a pas longtemps depuis qu'il y avait d'abord un bâton qui s'est nagé dans les lacs, je crois que c'est dans la province du Bas-Congo, tout ça ce sont des mauvaises organisations du gouvernement.
Alors, quelle est votre question,
donc,
Lucien?
Quelle
est la question?
C'est la bonne organisée. Oui, monsieur le journaliste.
Oui, quelle est la question que vous adressez à l'invité?
Oui, une question que j'aimerais poser à l'invité, c'est quoi? Comment faut-il faire? Puisque lorsque vous parlez seulement de Kinshasa, du Bas-Congo, il faut parler de toute la République démocratique du Congo. Maintenant, pour qu'il y ait une bonne organisation, pour qu'il n'y ait pas de décès, pour que le monde sache qu'au Congo, il y a aussi d'organisation. Comment faut-il faire? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire afin que au Congo, sur la régie des voies fluviales, il y ait une organisation?
D'accord, merci, monsieur Gabriel.
Ok, merci. Je remercie l'auditeur pour sa participation. Mais l'organisation est là. Parce que notre réseau est subdivisé en 3 biefs. Vous avez le bief inférieur ou le bief maritime qui est exploité par ex-régie de voies maritimes, maintenant la Congolaise de voies maritimes, et vous avez les 2 autres biefs, le bief moyen et le bief supérieur qui reviennent à la RVF. C'est comme ça, vous êtes à Kalemie, vous avez une direction provinciale de la RVF qui est à Kalemie, qui s'occupe de travaux de balisage et de études hydrographiques sur tous les lacs qui sont à l'est.
Tanganyika.
Tanganyika, Kindu, Édouard, Albert et tous les autres cours d'eau, le Lualaba notamment. Donc, du point de vue organisation, tout est mis en place. Mais si vous déplorez en pratique, comment les choses se passent, c'est là où je comprendrai. Parce que actuellement, à l'Est, nous n'avons pas un baliseur pour assurer le balisage de Lualaba. Sur le lac,
Mais il semble que le gouvernement provincial du Katanga avait acheté...
C'était des dragues.
Pas
de baliseurs.
Oui. Hein.
Nous sommes en programme avec eux pour voir comment on peut baliser le Lualaba. Mais soit dit en passant que, dans le cadre de PETEM, le projet transport multimodal, la Banque mondiale a pris en charge le balisage de Lualaba, de la rivière Mongala et Loa. Donc nous pensons que D'après le programme que nous avons mis au point avec la cellule, l'accord de coordination de PETEM, au mois de mai, il y a déjà des intrants parce que l'offre a été passée. Nous allons commencer à recevoir le matériel, fabriquer les signaux. Au mois de septembre, nous pourrons intervenir sur le Lualaba. Et notamment Mongala, parce que Mongala et Loua sont des rivières qui sont dans l'hémisphère nord. Nous sommes en alternance. Maintenant, là, ils vont entrer pendant la période de crue. Ils viennent de passer la période de basse eaux. Et c'est pendant les eaux moyennes que nous allons intervenir. C'est comme ça que je parlais de septembre à novembre. Oui. Mais pour le reste, le bien fond maritime, je crois que la Congolaise de voie maritime s'en occupe et ils se battent, bien que l'activité essentielle sur le dragage sur la passe de Matéba, divagante de Matéba.
Alors on retient que les armateurs doivent respecter le balisage et deuxièmement, vous avez dit, ils doivent avoir des informations hydrologiques.
Oui.
Et ils obtiennent ces informations auprès de qui généralement?
En principe, ils doivent passer dans nos bureaux. Mais nous, nous faisons aussi un effort pour émettre des avis aux navigateurs dans lequel nous leur disons que voici la profondeur sur tel cours d'eau. Nous vous demandons de charger jusqu'à à l'occurrence de tel turant d'eau pour qu'il n'y ait pas de désagrément. Mais vous
Mais
voyez...
Ils respectent souvent ces...
Bon, c'est ça, je sais que je voulais soulever. Il y a une sorte de dualité. Le commercial tend à prendre le dessus sur la technique. Parce que l'opérateur économique, pour lui, s'il a une barge de 400 tonnes, il veut la charger à 100%.
Et donc il charge sans tenir compte de
bon, tout. Malheureusement, c'est ça le grand problème. Et le jurat qui est à bord n'écoute même pas les conseils du commandant. Alors que nous, dans notre jargon, on dit que c'est le commandant qui essaie de le mettre à bord après Dieu. Quand le commandant dit que non, je ne peux plus continuer à charger, le gérant voit le fret, c'est l'argent, et il demande au commandant de charger. S'il ne le fait pas, il désobéit, arrivé à Kinshasa, il fait son rapport au patron, et le commandant est carrément viré. Donc, vous voyez, il faut que les choses reviennent à la normale, parce qu'on ne peut pas continuer à privilégier l'aspect commercial tout en négligeant l'aspect technique.
L'aspect technique, oui. Voilà, des questions et préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Quelles précautions prendre pour naviguer en toute sécurité?
Zigzag, it's time, so move it.
Indépendance, tcha-tcha, Kozoumiye.
À l'occasion du 54e anniversaire de l'indépendance de la RDC, l'émission Zigzag se déplace à Kisangani.
Oh, il y a un vécu qui passe mon
Dieu. Et surtout que nous sommes à quelques mètres de la route nationale numéro 1.
Voilà.
De la place de la Poste au Rapido à Guénia, en passant par le stade Lumumba, revisitez l'histoire à travers tous les événements qui ont marqué cette ville entre 1950 et 1964. C'est un rendez-vous exceptionnel à suivre de lundi 30 juin de 13h à 15h, heure de Kinshasa, sur Radio
Okapi.
Quelles précautions prendre pour naviguer en toute sécurité pendant la période de baisse du niveau des eaux sur les voies navigables? Nous avons un Tongo, la question, Tongo vient de nous écrire, de nous envoyer un SMS. Tongo Emmanuel à Arou, il dit ceci, s'il y a baisse des eaux, combien de tonnes de marchandises les capitaines peuvent exiger?
Sa question n'est pas précise, malheureusement, mais les unités ont leur capacité. Nous avons des barges de 200 tonnes, 300 tonnes, 400 tonnes, donc ça varie. Comme la SFTPA, des barges de 1000 tonnes, même 1500 tonnes. À l'époque, on transportait encore des lingots de cuivre. Donc, le tonnage réel à transporter, c'est en fonction de la capacité offerte par son unité. Tel que lui, il a demandé au constructeur de le faire. Donc, je ne sais pas, il parle de quelle la barge de combien, mais sur la barge, il va voir qu'il y a une selle de gradation qui permet, ça c'est le creux de la barge, qui permet parce qu'il y a un abac, pardon, qui veut que quand vous chargez jusqu'à 20 cm, cela correspond à autant de tonnes. 40 cm sera correspond au tas de tonnes. Et c'est le constructeur qui donne ça. Donc, lui n'a qu'à se référer pour voir la capacité de sa barge et le tirant d'eau qu'il doit afficher. Et il saura déterminer, il a transporté combien de tonnes. Mais il doit respecter le prescription. Il ne peut pas dépasser les 30 cm de franc-bord du bateau pour que le bateau ait quand même une marge de flottabilité. Et il ne faut pas qu'il charge à 100% à toute période. Si on dit que nous sommes maintenant pendant les basses eaux, les niveaux d'eau a baissé, il doit se référer à toutes ces données.
Mais vous avez dit, le gérant dit, allez, chargez-moi ce bateau-là. Et si le capitaine dit un mot, alors il sera viré.
Oui, mais c'est comme ça, nous disons que même tous les opérateurs économiques qui viennent dans le secteur, ils doivent être formés. Avoir toutes ces informations. Parce que construire une unité flottante, c'est un lourd investissement qu'il a fait. Et le voir échouer ou couler, ça fait de la peine. Donc il a tout intérêt de respecter. Et le bateau a état d'amortissement. Il sait que dans 10 ans, 20 ans, il pourra amortir son bateau et récupérer le dû qu'il a dû mettre dans le jeu. Alors si lui privilégie pour gagner vite vite, il veut faire le mercantilisme, certainement il va perdre parce que son bateau va toucher un obstacle et ça pourra couler. Et
On a vu, il y a des bateaux qui échouent sur les bancs des sables et qui restent là pendant plusieurs jours, voire une semaine, et il n'y a pas un autre bateau pour les tirer de là.
Oui, je sais, parce que moi-même j'ai fait aussi une mauvaise expérience. Je suis resté 9 jours et 9 nuits
sur un banc de sable. À quel niveau?
Au niveau de Sandy Beach. Les gens qui connaissent, c'est à quelques 260 km d'ici.
Oui.
Mais c'était pas facile. Donc, en faisant des manœuvres pour déséchouer le bateau, vous consommez énormément de carburant.
Oui.
Et parfois, vous êtes obligé de louer de barges pour faire les transbordements. Ce sont des frais supplémentaires qui s'ajoutent. Et c'est comme ça, nous disons, la prudence doit être de mise. Il n'y a rien qui dépasse la prudence, il faut vraiment la prudence. Et je dirais aux armateurs qui m'écoutent, je croyais savoir être la personne la mieux indiquée, parce que, en tant que directeur technique, c'est de cela que je m'occupe journalièrement, pour leur demander d'être prudents à cette période où nous n'avons pas encore un baliseur qui est en mouvement. Il est bien vrai que le balisage que nous avons eu à poser pendant les hautes eaux peuvent ne pas représenter la vraie route, et que certaines bouées peuvent avoir dérivé, ça peut
dérouter les...
Oui, oui.
Ouais.
Donc, ils doivent être prudents en naviguant, et s'il est faux, que les naviguent le jour et pas la nuit, comme ça on aura à restreindre un peu le nombre de cas d'accident ou incident qu'on pourra avoir.
Donc, pourquoi certains préfèrent naviguer la nuit pour arriver très vite et vendre rapidement les marchandises?
Oui. Bon, c'est ça, vous gagnez aussi en temps parce que quand vous prenez le fret, vous avez des engagements vis-à-vis du client qui vous dit, je veux que dans 2 semaines que je trouve le fret est arrivé à tel lieu. Mais à ce moment-ci où nous n'avons pas un balisage optimal, parce que nous pensions que nous pouvions arriver à ça avec l'appui de l'Union européenne, mais nous n'en sommes pas encore là.
Oui.
Nous leur demandons de ne pas naviguer la nuit.
Bien. Gabriel Mokango, directeur technique à la Régie des voies fluviales. Merci.
C'est moi qui vous remercie, monsieur le journaliste.
Au capitaine.